Vous écoutez RTL.
RTL.
Après être resté gelé pendant plus de 5000 ans sur un versant montagneux, il est aujourd'hui préservé pour l'éternité dans un tombeau réfrigéré. Voici l'homme des glaces, la momie la plus ancienne jamais découverte.
La curiosité est un vilain défaut.
La presse le baptise Ötzi, du nom de la vallée de l'Ötztal où on l'a retrouvé. Qui était-il ? Et qui l'a tué ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est très heureux de vous accueillir chez vous, puisque c'est votre studio.
Oui, mais je suis pas à la même place que d'habitude.
Voilà, vous êtes à la place de l'invité. Donc
lumière tamisée, vous avez vu.
Vous avez vos marques quand même, tout va bien.
Mais nous, on tamise aussi à 14h.
Oui, ouais, c'est pas désagréable. Alors, on va effectivement raconter, et on l'a entendu avec la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur, ce qui est en fait le premier... Meurtre répertorié de l'histoire, c'est ça, c'est...
Premier cold case, en tout cas, oui. On peut se permettre, puisque l'homme a été congelé. Donc, il y a 53 siècles, quand même, il y a 5300 ans. Ouais. Mais on n'a pas compris tout de suite ce qui s'était passé. En fait, si vous voulez, au début, on est en 1991, je crois en septembre, il y a des randonneurs allemands qui se baladent quand même à 3200 mètres d'altitude, pas loin de la frontière, dans le Tyrol, hein, dans les Alpes, le sud du Tyrol.
On est tout près entre l'Italie et l'Autriche.
Et voilà, et ouais. Tout près de l'Autriche, ouais. Et tout près, de l'Italie. Et là, ils aperçoivent une sorte de petite mare gelée d'où semble sortir le torse d'un homme. Alors eux, ils pensent tout de suite à un malheureux alpiniste qui aurait eu un problème et puis de temps en temps la glace rend les corps. Alors ils appellent, comme ils savent pas exactement où est la frontière, ils appellent les gendarmes autrichiens d'un côté et les secours italiens, les carabinieri de l'autre. Bon, et on va s'apercevoir plus tard que le corps est à 92 mètres à l'intérieur du territoire italien de l'autre côté de la frontière. Et... mais au début, les deux autorités fonctionnent.
Et dans quel état ce corps ?
Alors, il n'est pas dans un si mauvais état que ça, parce que on l'amène d'abord en hélicoptère à Innsbruck, où il y a un procureur de la République qui vient voir le cadavre. Et comme il y a les traces de coups et qu'il y a du sang séché et qu'on n'a pas compris que c'était un homme préhistorique, il ouvre une information contre X, pour meurtre. Et évidemment, quand les médecins légistes viennent, très vite, ils disent « Non, attendez, puis en même temps, il a quand même des chaussures, une toque en peau d'ours, il a des chaussures
sont des indices.
En peau de cerf, etc. Enfin, » voilà, quoi.
Donc là, on se dit « On a découvert un corps conservé par les glaces. » Mais oui. À partir de quand, on va se dire que finalement, oui, c'était effectivement un assassinat.
Dix ans, parce que donc la dépouille ensuite va être réclamée par l'Italie. Mmh. Il se trouve d'ailleurs encore aujourd'hui, je dis aux ceux qui veulent aller à Bolzano, donc côté italien de la frontière autrichienne, il y a un musée d'archéologie dans lequel il y a une pièce réfrigérée, vitrée, où on peut voir le corps de cet homme. Quand
vous
même.
L'avez vu ?
Très impressionnant. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que des photos, des vidéos, ouais. Mais c'est très impressionnant. Et puis, il est conservé, enfin, parce que c'est un trésor de la science. Jamais un corps humain n'a été étudié par autant de spécialistes.
Mais attendez, le suspense est à son comble, Jacques Pradel. Pourquoi a-t-il été comment il a été
assassiné ? Vous avez bien raison de me le faire remarquer. 1991, c'est la découverte. 2001. En 2001, on le passe au scanner. Et là, il y a un médecin légiste qui dit « Mais ça, c'est quoi ? C'est une trace de flèche. Il a une flèche qui lui est arrivée dans les omoplates. Il a été fléché dans le dos. » Donc, à partir de là, on sait que c'est un meurtre. Ça n'est pas un accident. Ouais.
Et puis, il y a une anecdote qu'il faut raconter quand même à propos d'Ötzi qui concerne, il faut dire les choses, ses attributs, ses...
Bon, attendez, vous voulez la description?
Allons-y.
La fiche signalétique d'Ötzi. Oui. Il a entre 40 et 50 ans. Il mesure 1m59. Il a de la barbe, des cheveux longs, des yeux marrons. Mais effectivement... Il chausse du 38, je vous le dis au passage.
Ah, c'est la taille idéale, ça, voilà. Pour trouver des chaussures.
Sauf que, un jour, un médecin s'est dit, mais les gars, et le sexe ? Il n'y a plus de sexe. Alors, à ce moment-là, c'est des hypothèses. Qu'on sait.
Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un homme ? Non, quand même pas.
Ah non. Ça, on savait que c'était un homme.
Parce qu'on lui a arraché le sexe.
Mais oui, alors on dit, ah ben voilà, c'est un mari jaloux, il a dû, etc., qui lui a coupé. C'est l'Empire des Sens, quoi, si vous voulez. Ou alors, d'autres
ont dit... Version paléolithique.
Non, mais c'est des ours, des bêtes sauvages et tout. On a fini par retrouver le sexe d'Ötzi, qui d'ailleurs, on a reconstitué la taille originale à l'état de repos.
Alors
12,5 cm.
Oh, ce qui correspond,
selon les statistiques internationales, à une très bonne moyenne. Mais simplement, c'était la glace et le froid qui avaient rétréci son sexe.
Ça fait ça même au vivant, vous savez.
Pareil. Je me le suis laissé dire, mais je me balade rarement à 3000 mètres d'altitude.
Bon, cette histoire, en tout cas, Jacques Pradel nous montre à quel point la police scientifique a progressé.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
Ça alors, par exemple.
Quoi donc ?
Vous êtes le portrait craché de Violette Mazière. Vous savez, la fille qui a tué ses parents.
Ah oui ? Oui, vous avez raison, ça ressemble. Surtout le menton. Mais rassurez-vous, j'ai tué personne.
La curiosité est un vilain défaut.
La cour, après en avoir délibéré, ordonne qu'elle soit conduite pieds nus, revêtue d'un voile noir, sur une place publique de Paris, pour y avoir la tête tranchée.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'affaire Violette Nozière, racontée par Claude Chabrol au cinéma avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Jacques Pradel, c'est l'une des affaires que vous racontez, vous aussi, évidemment, dans votre livre. Alors, on va commencer par la fin,
oui,
puisqu'on entendait l'extrait du film. Oui. Elle a été condamnée à mort, mais finalement, elle n'a pas été décapitée.
Mais bien sûr, et quand elle a été condamnée à mort, le tribunal savait qu'on ne guillotinait plus les femmes depuis longtemps.
Oui.
Et d'ailleurs, la peine donc de Violette Nozière a été commuée par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, je crois, en détention à perpétuité. Puis ensuite, il y a eu toute une suite de rebondissements incroyables, parce qu'en 1942, le maréchal Pétain va lui faire une remise de peine très importante. Elle va sortir en 45 et là elle va épouser le fils du bibliothécaire de la prison pour femmes de Rennes où elle avait été incarcérée. Ils vont avoir 5 enfants et ils vont vivre heureux. Les enfants ne sauront jamais que leur mère était une parricide doublée d'une matricide.
Mmh.
Elle est morte dans les années 60 d'un cancer.
Et c'est à ce moment-là que ses enfants ont appris son histoire.
Voilà,
en fait.
Dit-on. Voilà. Moi, j'ai du mal à le croire, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit absolument.
Alors on va la raconter, cette histoire. Jacques Pradel, et donc on est dans les années 30, de quel crime elle va être accusée? Donc vous nous l'avez dit, mais il faut le détailler.
Parricide et matricide, parce que voilà, on a quelqu'un qui a 19 ans en 1934, donc 18 ans en 1933, année où elle va décider de se débarrasser de ses parents. Alors, Violette Nozière est née en 1915, et pour son époque, c'est un ovni, parce que dès l'âge de 16 ans, elle collectionne les amants. Enfin, la France est quand même très collet-montée à l'époque. Bon, elle collectionne les amants, elle fait l'école buissonnière pour cela. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle veut de l'argent. Elle veut de l'argent parce qu'elle est complètement mytho. Elle habite rue de Madagascar. Son père est conducteur de locomotive à la compagnie Paris-Lyon Méditerranée.
PLM, ouais.
Mais à l'école, elle dit « Ah, mon père, c'est un grand inventeur. D'ailleurs, le grand directeur l'a salué, etc. » Bon. Et donc, sa famille a de l'argent. Donc il faut qu'elle en ait aussi. Elle va le chercher chez des messieurs qui aiment bien...
Donc elle se prostitue.
Des jeunes filles pas farouches, bien sûr, elle se prostitue.
Mais ça suffit pas, tout cet argent ne suffit pas. Elle se dit, il faut que je fasse la peau à mes parents.
Ce qui se passe, c'est un drame pour elle. Elle attrape la syphilis. Et évidemment, parce qu'elle collectionne les amants. Et là, comment annoncer ça aux parents? Elle se fait faire un faux certificat de virginité par un médecin qui a été un de ses clients, disons-le.
Oui,
bon.
Sans doute, oui.
Et puis ensuite, elle décide, Sidonie, effectivement, de se débarrasser de ses parents. Et là, encore, une intelligence, mais d'une perversité terrible, elle va, avec une fausse ordonnance, se procurer un des barbituriques les plus puissants de l'époque, qui est le Véronal, qui est vraiment un sédatif très puissant. Elle va apporter ce Véronal avec encore une fausse ordonnance qu'elle va montrer à ses parents. C'est un médicament qui permet de ne pas se faire contaminer par la syphilis.
Quelle perversité!
Alors, elle a son certificat de virginité. J'ai attrapé ça en allant aux toilettes.
Ouais.
Et là, le truc, en disant, il faut prendre la poudre blanche parce que ça va vous éviter la syphilis.
Et ça marche?
Alors, ça ne marche pas parce qu'elle a mal dosé la première fois. Alors, ses parents s'endorment. Là, elle met le feu. Et puis, elle appelle les pompiers. Bon, les pompiers arrivent et les parents la remercient. Tu nous as sauvé la vie, merci, t'as appelé les secours. Mais c'est terrible cette histoire, c'est vraiment terrible.
Donc elle rate son premier homicide contre ses parents.
Voilà.
Et vous le racontez dans votre livre, Les grandes affaires criminelles pour les nuls. Vous racontez que elle va tomber amoureuse dans les semaines qui suivent. Et ça, c'est important aussi. Pourquoi ?
Jean Dabin, c'est un très, très beau jeune homme. Elle veut partir avec lui en vacances et elle veut partir à l'étranger. Et c'est là qu'il faut de l'argent. Et elle sait que son père a 18 000 francs d'économie. C'est très important comme somme. Mmh. Elle pense que l'argent est caché rue de Madagascar. Donc là, cette fois-ci, elle augmente la dose. Son père s'endort et va mourir. Sa mère va survivre par miracle. Elle cherche, elle retourne l'appartement. Il n'y a pas les 18 000. En fait, les 18 000 francs, ils ont été mis à la banque par le père. Mmh. Elle va trouver 2-3 000 francs, mais ce n'est pas suffisant pour aller de l'autre côté de l'Atlantique.
Et on va raconter la fin dans une minute, parce qu'il y a encore tellement de rebondissements qu'on va se garder du temps pour raconter la suite de l'histoire de Violette Nozière, l'empoisonneuse. Restez avec nous sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On est très heureux de recevoir Jacques Pradel dans La Curiosité. Vous venez nous raconter certaines des grandes affaires criminelles que vous avez répertoriées dans un livre. Là, on était en août 1933 avec une certaine Violette Nozière. Elle a empoisonné ses parents avec du Véronal en espérant leur voler leur magot. 180 000 francs. Elle voulait rejoindre son amant, quitter la France avec lui. Et pourtant, la meurtrière ne trouve que 3 000 euros. Elle est un peu déçue.
3 000 francs.
Oui. Non.
Ou alors elle avait une machine à voyager dans le temps.
Oui, et c'est là que l'affaire prend un tour très particulier. Violette Nozière va s'enfuir. Et 24 heures plus tard, elle va revenir. Pourquoi ? Parce qu'elle veut s'assurer que ses parents sont bien morts.
Absolument.
Et que va-t-elle découvrir ?
Et elle va constater que son père, effectivement, est mort, mais que sa mère est tombée du lit, en fait, et qu'elle respire encore. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui porte secours ? Bah, pas du tout. Elle est vraiment machiavélique. Elle va dans la cuisine, elle ouvre le gaz, et elle va essayer de maquiller ce qui s'est passé en suicide au gaz. Et sauf que l'odeur de gaz se répand dans l'immeuble, qu'il y a des voisins qui sont inquiets, qui viennent, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils disent, ah, je viens d'arriver, mes parents ont dû tenter de s'asphyxier au gaz. Alors là,
réagissent les enquêteurs, les policiers ?
Eh bien, évidemment, ils ont le nez de l'enquêteur tout de suite. Ça ne colle pas avec un suicide au gaz, il y a des détails qui ne fonctionnent pas. Et quand elle sent que ça ne fonctionne pas, elle s'échappe, parce qu'on ne se méfie pas trop d'elle au début. Donc elle s'échappe, elle disparaît, elle va être reprise 4 jours plus tard. Parce que,
ça prend un retentissement de dingue.
C'est énorme, une jeune fille de 18 ans a tué son père et a tenté de tuer sa mère, etc. Bon.
Elle a forcément une bonne histoire à raconter, Violette Nozière, aux policiers.
Alors, non, elle n'a même pas été interrogée, elle est partie. Elle est arrêtée au Champ de Mars parce qu'il y a un promeneur qui a vu sa photo dans le journal. Bon.
C'est l'extrait du film de Chabrol qu'on a entendu.
Voilà, exactement. Et là, effectivement, elle est interrogée. Et elle dit, bah oui, j'ai tué mon père parce qu'il me violait depuis que j'avais 12 ans. Et le policier lui dit, mais et votre mère ? Ah ben, je l'ai tuée parce qu'elle n'a rien fait pour me protéger. Et on va penser que c'est une défausse, une de plus, un mensonge de plus. Mais il y a un policier plus tard qui, dans ses mémoires d'ailleurs, dira qu'il était persuadé que c'était la vérité. Et ce policier, c'est le fameux commissaire Guillaume, qui va inspirer Simenon pour le commissaire Maigret, etc.
Mais sa mère, donc, elle était toujours vivante. Comment ça se passe au procès ? Elle réagit comment, sa mère ?
Très très mal. Moi j'ai mis cette phrase d'ailleurs en exergue du chapitre, parce qu'à un moment de son box, Violette Nozière lui dit « Pardon maman ». Et sa mère lui dit « Je te pardonnerai quand tu seras morte ». Mais quelques jours plus tard, elle va supplier la cour « Laissez-moi mon enfant, laissez vivre mon enfant ». Voilà.
Après plusieurs jours d'audience.
Après, oui, mais très peu, hein, parce que les procès étaient très rapides. Je ne sais pas exactement combien de jours.
Oui, c'est dans la semaine.
C'est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas de la psychologie. Aujourd'hui, on en fait beaucoup dans les affaires criminelles. Et on se dit, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Quelle enfance elle a eue ? Ou quelle maladie a-t-elle pour pouvoir... On ne tue pas ses parents juste pour un peu d'argent ?
Ben, c'est difficile de se mettre dans la tête d'un meurtrier ou d'une meurtrière. Nous, on n'a que les pièces comme ça du dossier. Moi, je suis d'accord avec vous, tout meurtrier ou toute meurtrière est quelqu'un, avant d'être un monstre, c'est d'abord quelqu'un comme nous, quoi. Donc, c'est trop facile de dire c'est un monstre, un génie du mal.
Oui, ça nous éloigne du mal.
Ça nous éloigne.
C'est ce que vous cherchez d'ailleurs dans ces histoires. Alors, la part d'humanité
souvent,
chez les monstres.
Bien sûr, oui, et le déclic, le passage à l'acte quand même, parce que ça c'est un mystère que en général les assassins n'éclairent pas non plus, gardent un peu le secret. Mais pour Violette Nozière, pour en venir à votre question, c'est justement, ça a été toute la démarche du commissaire Guillaume. C'est pour ça qu'il n'était pas sur l'affaire. Il était quand même le patron de la PJ, hein, c'était le grand patron de la PJ de Paris. Il est allé la voir, il a demandé à la rencontrer, il a parlé avec elle très longtemps. Il en parle dans ses mémoires en disant que... Parce qu'elle lui a donné des détails quand même, c'est un flic. Hein, donc il sait quelles questions poser hein, pour voir si c'est cohérent ou pas. Alors elle a dit oui, on avait... mon père cultivait quelques petits légumes, il y avait des jardins ouvriers à l'époque. Et n'oublions pas, il n'était pas grand savant de
la compagnie. Ferroviaire.
Bon, il était conducteur de locomotive, il avait droit au jardin ouvrier. Et il y avait un petit baraquement dans lequel il y avait les outils. Et c'est là que ça se passait, quoi. Et elle va dire au commissaire Guillaume que ça a commencé à l'âge de 12 ans. Et que surtout, effectivement, sa mère a tout compris, mais n'a jamais rien fait pour l'aider. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle va mourir en 1966, elle va demander, dans ses dernières volontés, elle a demandé à être enterrée près de son père. Qu'elle avait tué.
Et qui, soi-disant, l'avait violée quand elle était gamine.
Voilà. Bon. Donc, je dis ça intentionnellement parce que voilà, on ne peut pas répondre à la question.
Bon, parce que pour ceux qui nous rejoignent, elle a été condamnée à mort, mais elle n'a pas été guillotinée.
Non, parce qu'on ne guillotinait plus les femmes depuis pas mal de temps.
Et donc, elle a fini par être de remise de peine dans
remise de peine, libérée
par vivre libre, se marier, avoir des enfants.
Mais pourquoi elle a eu toutes ces remises de peine, Violette Nozière? C'est parce que on se disait qu'elle avait des circonstances atténuantes quelque part et qu'on avait peut-être condamné une jeune fille innocente.
Quelque part, parce que à l'époque, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'à l'époque, ce n'est pas un procès qui a divisé la France. Hein. Tout le monde était d'accord, on aurait aimé l'avoir guillotinée. Mais il y avait quand même des défenseurs de Violette Nozière. C'était tout le mouvement surréaliste, les dadas.
Ah bon?
Ben oui, parce que c'était une rebelle, c'était la première femme libérée, elle disposait de son corps. Ah ben, dans le contexte de l'époque, elle était vraiment adulée par les surréalistes. Mmh. Et ensuite, 42, je crois que 1942, la remise de peine de Pétain, il faut quand même le dire, Pétain a été très généreux pour un certain nombre de prisonniers parce qu'il fallait faire de la place dans les prisons pour y mettre des résistants et des communistes. Mmh. Mon analyse de la chose, mais que je donne après avoir lu sur ce sujet un certain nombre d'historiens.
Les grandes affaires criminelles pour les nuls, c'est donc chez First Edition. Merci beaucoup Jacques, c'était un bonheur. Ouais,
c'était un plaisir pour
moi. Merci Jacques.
C'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais heureusement, on revient demain avec au programme. Christine and the Queens, une belle histoire, un succès à la française. Et puis aussi les dessous coquins, croustillants de l'histoire de France.
Après les infos, vous retrouvez Laurent Boyer. Il vous attend dans son grand studio humour. Il reçoit Olivier de Benoît.
Sinon le fantasme absolu, c'est quoi? C'est de faire l'amour à une fille et juste après elle se transforme en pizza chaude et en canette de bière. Mais ça n'existe pas, on n'est pas sur la même planète.
Bon, vous savez que les filles ont le même fantasme, c'est la bonne nouvelle. Allez, bon après-midi à l'écoute d'RTL, les curieux. RTL.